Mais ne sois pas si sensible, voyons.
Va vraiment falloir que tu te blindes, toi. Que tu t'endurcisses un peu.
Non, mais t'es vraiment trop
sensible. Non, mais t'es vraiment trop sensible. C'est pas possible.
Les atypiques du cerveau, le podcast qui en a entre les deux oreilles.
Bonjour et bienvenue dans les atypiques du cerveau. Nous allons parler d'hypersensibilité et d'hyperesthésie. Hyperesthésie vient du grec ancien. Hyper, qui veut dire au-dessus, au-delà, et aesthesis, qui veut dire sensation. Hypersensibilité vient du latin sensibilitas, qui veut dire sensibilité, c'est-à-dire la faculté de sentir, le sens, la signification. C'est une chercheuse, Elana Ronne, qui a commencé des recherches et publié un premier livre sur le sujet en 1996. C'est un sujet à la mode, vu le nombre d'ouvrages et de sites internet qui fleurissent sur ce thème depuis quelques années. Paradoxalement, l'importance que celui occupe dans les médias semble inversement proportionnelle à celle que l'on trouve dans la littérature spécialisée. Alors attention, je ne dis pas que cela n'existe pas, loin de là. Le fait de se reconnaître dans ses livres et dans ses écrits permet notamment l'acceptation de soi, et ça explique sans doute une grande part de leur succès. Mais qu'en est-il lorsque l'on se tourne vers les travaux scientifiques ? L'hypersensibilité, telle qu'on l'entend, se joue à plusieurs et différents niveaux. Des sensations, autrement appelées hyperesthésie. L'hypersensibilité au niveau des émotions, c'est-à-dire qu'elles sont plus intenses ou plus variées. Également, l'hypersensibilité des intuitions. On estime qu'environ 20 à 25% de la population est très sensible, donc hypersensible. Et l'hypersensibilité est souvent présente chez certains profils des atypiques du cerveau. Comme je vous le disais, une personne hypersensible va percevoir plus intensément les stimuli de son environnement. Donc ça peut entraîner une confusion, voire parfois une douleur plus grande selon la sensibilité justement. Le cerveau reçoit une grande quantité d'informations non filtrées et est donc aussi fatigué plus rapidement. Et souvent, ces réactions ne sont pas vraiment comprises par des personnes qui ne sont pas hypersensibles. Pour citer quelques exemples, il y a l'hypersensibilité visuelle, où la personne peut avoir l'impression d'être éblouie, ou se trouver dans une situation douloureuse, ou avoir des migraines dans des lieux, par exemple, plus éclairés que la normale. Ça peut être également l'hypersensibilité auditive ou hyperacousie. Donc, il va percevoir des bruits bien plus intensément. On ne pourra pas trier les bruits et se concentrer sur une conversation dans un milieu bruyant. Il y a également l'hyperosmie, qui est l'hypersensibilité olfactive. On peut parler par exemple des nez en parfumerie. La moindre odeur, bonne ou mauvaise d'ailleurs, va être perçue très très fortement. Vous avez aussi l'hypersensibilité tactile. Vous l'aurez compris, il y a plein de formes d'hypersensibilité, ou plutôt d'hyperesthésie différentes. Scientifiquement, il existe des preuves. On peut parler de prédisposition génétique, on peut parler aussi de certains gènes comme ceux qui utilisent la sérotonine qui sont différents. Concernant l'hypersensibilité émotionnelle, c'est le fait d'être particulièrement perturbé par les humeurs des autres. C'est-à-dire qu'à la moindre contrariété, les hypersensibles ont du mal à contenir leurs émotions qui sont largement amplifiées et leur entourage va avoir tendance à les définir comme des personnes susceptibles et fragiles. Mais à quoi tout cela est-il dû concrètement? D'après une étude datant de 2011, le thalamus serait moins actif chez les personnes hypersensibles. Alors c'est cet organe qui filtre les informations sensorielles dans le cerveau. Alors d'ailleurs, on dit souvent que les hypersensibles sont sans filtre. Il y a beaucoup de pistes qui ont été explorées, notamment en imagerie cérébrale fonctionnelle, qui ont permis de montrer un centre de la douleur plus actif. On peut parler de l'influence de la dopamine sur le cerveau des hypersensibles. La dopamine, c'est un produit chimique qui va circuler dans notre cerveau et qui s'occupe de ce qu'on va appeler la récompense. C'est-à-dire qu'on l'appelle souvent l'hormone de la récompense. Quand on réussit des actions, et ben le cerveau il est félicité par de la dopamine. Les études ont découvert qu'il y avait des variations justement au niveau de cette dopamine. Et donc le système de la récompense est différent. Les hypersensibles ne sont pas autant récompensés, ou en tout cas pas de la même façon. Il y a eu plusieurs études, notamment une autre qui a fait passer des IRM à des personnes qui étaient hypersensibles. On leur a montré des images de personnes, alors soit des personnes qu'ils connaissaient, soit des inconnus. Et ces personnes affiché une émotion en photo. Et ils ont pu observer, grâce à l'IRM, ce qui se passait dans le cerveau des hypersensibles. Sans rentrer dans tous les détails, ce qui a été conclu de cette expérience, c'est que chez les hypersensibles, les émotions illuminent, en tout cas c'est ce qu'on voyait dans les IRM, tout le cerveau. La subtilité, c'est que non seulement les hypersensibles sont hyper empathiques, mais ils ne font pas que comprendre les émotions des autres, mais ils les intègrent dans leur corps. C'est-à-dire que s'ils voient une photo de quelqu'un qui est triste, c'est pas juste qu'ils vont ressentir cette même tristesse, ils vont réellement être tristes. D'où le côté éponge émotionnelle dont on entend souvent parler. Alors ça c'est un point. Il y a également la question de la carence en sérotonine. Pour faire simple, c'est un neurotransmetteur qui va permettre d'avoir une humeur plutôt stable. Et puis si on n'en a pas, bah évidemment on a plus de haut et de bas. Je simplifie à l'extrême. Chez les hypersensibles, eh bien tout simplement il y a parfois une carence en sérotonine et donc des humeurs qui ont tendance à être moins régulées. Ce qui est intéressant de noter avec ces études, c'est que ce n'est pas juste un sujet à la mode où tout le monde s'estimerait hypersensible et où il y a vraiment un gros sujet inventé derrière. C'est pas juste une sensation. Il y a des preuves qui certes commencent à être analysées d'un point de vue scientifique, mais qui existent bien. Une autre analyse qui a été faite parle d'un système neurosensoriel plus pointu et plus fin, c'est-à-dire davantage de connexions neuronales, des neurones miroirs très actifs, donc en lien avec l'empathie notamment, et ce qu'on appelle l'insula, qui est aussi appelé le siège de la conscience, qui a été noté comme plus actif chez les hypersensibles. Également des amygdales, alors pas celles de la gorge, hein, qui sont en hyperfonctionnement. Pour faire simple, le cerveau capte et traite plus d'informations à la seconde. Ce qui veut dire que c'est un festival de stimuli permanent qui assaille le cerveau et qui fait que c'est compliqué d'être dans quelque chose de plus calme. Et évidemment, du coup, on est beaucoup plus sensible à son environnement. On ressent plus les émotions, les bruits, les sons, la lumière, les odeurs, bref. Et qu'en est-il chez nos atypiques du cerveau? Il y a une étude réalisée par une équipe de chercheurs californiens qui a développé une théorie appelée « Hyperbrain, Hyperbody ». Elle part du postulat que les personnes qui ont un QI élevé, donc au potentiel intellectuel, ont une perception accrue de mille et un stress auxquels nous sommes exposés et réagissent donc aux sollicitations de leur environnement. Suite à cette théorie, cette équipe de chercheurs a mené auprès de 3715 participants de Mensa, association de haut potentiel intellectuel à l'échelle internationale. Ils leur ont envoyé un questionnaire très complet concernant les ressentis et les habitudes. Et bien, les résultats ont montré que ces personnes sont très sensiblement plus exposées que la moyenne aux troubles anxieux. Le haut potentiel intellectuel pourrait entraîner une surréponse émotionnelle et physiologique au stress, sans toutefois exclure que l'hypersensibilité puisse être due à d'autres causes et raisons. L'auteur principal de cette étude, Ruth Karpinski, affirme que les résultats sont significatifs à plus d'un titre. Non seulement ils participent à la recherche sur l'étude de l'intelligence, mais ils entrent aussi dans le champ de la psycho-immunologie, apportant des éléments de réponse sur le questionnement concernant la communication entre cerveau et système immunitaire quand le stress entre en jeu. Cette sensibilité s'accompagne aussi d'une tendance plus marquée aux allergies, aux maladies auto-immunes et à l'asthme. Nos résultats sont parlants parce qu'une proportion significative de ces individus souffrent quotidiennement juste du fait de leur hyperexcitabilité émotionnelle et physique, nous dit-il. Reste toutefois qu'il ne s'agit là que de déclaratifs. Ces études ne font que commencer et on n'a pas fini d'entendre parler d'hypersensibilité. Pour certains, les hypersensibles sont ainsi perçus comme fragiles et vulnérables. Cela dit, selon plusieurs psychothérapeutes, l'empathie, c'est la définition même du vivant. Ça ne fait pas un être fragile en tant que tel. Toutefois, ça peut être vécu comme un véritable inconfort. C'est-à-dire que quand on ne réagit pas de la même façon que les autres, bah, ça donne l'impression d'être différent. Il faut faire attention toutefois à ne pas confondre hyper-émotivité et hypersensibilité. Oui, les hypersensibles sont émotifs, mais il y a plein d'autres caractéristiques et il y a trop souvent une confusion entre les deux. On a tendance à dire que les hypersensibles sont fragiles, qu'ils vont s'effondrer. On a tendance à retrouver beaucoup plus d'hypersensibles, comme je vous le disais, chez nos atypiques du cerveau, notamment chez le haut potentiel intellectuel, les personnes avec un trouble déficit de l'attention et les personnes avec autisme. Les stimuli et les autres impressions du quotidien vont pénétrer plus facilement et de manière non filtrée les hypersensibles, et donc ils sont plus facilement surexcités et avec de fortes réactions émotionnelles qui peuvent épuiser la personne et également son entourage. Pour les personnes avec autisme, on a noté que près de 90% des individus présentent des altérations sensorielles, quel que soit là où on se trouve sur le spectre de l'autisme. Une fois qu'on a dit tout ça, que fait-on de son hypersensibilité? Quels sont les risques à refuser et à essayer d'aller contre elle? Tout simplement passer à côté de sa vie, sans même s'en rendre compte. Comment faire pour vivre avec? Déjà, ne pas chercher à se calmer. Parce que plus vous allez vouloir calmer un hypersensible, plus ça va être compliqué. Il faut d'abord accepter pleinement et sortir de cette idée de contrôle nécessaire. Il faut également accueillir ses émotions, qu'elles soient négatives ou positives. Toute émotion a quelque chose à dire. Il faut arrêter de voir l'hypersensibilité comme une faiblesse. C'est pas forcément une vulnérabilité, ça peut être aussi une grande force. Et puis il faut cultiver son hypersensibilité. Alors, quelle clé pour un hypersensible ? Éviter, par exemple, un agenda trop chargé, se fixer des limites à ne pas dépasser, ne pas se laisser emporter par les émotions d'autrui, alors facile à dire, moins à faire au quotidien, mais en tout cas prendre du recul par rapport aux gens, par rapport aux événements, par rapport à tout ce qui va demander trop d'énergie. Essayer de faire preuve de plus de lâcher prise. Garder en vue ses envies et non pas se suradapter en permanence aux autres. Être aligné. C'est-à-dire, si vous vous sentez mal, s'il y a quelque chose qui vous turlupine, cherchez-en la cause et voir ce qui vous apaise. Donc tout ça, ça revient à bien se connaître. Prendre soin de soi et limiter les stimuli lorsque possible. Évidemment, c'est un travail sur soi qui peut prendre du temps. Et surtout, il ne faut pas oublier les avantages. Une capacité d'empathie plus développée que la moyenne, une façon de traiter l'information, comme on l'a vu d'un point de vue scientifique, qui est très intéressante, une authenticité, souvent une sensibilité artistique. Une intuition aussi. Bref, l'hypersensibilité et l'hyperesthésie ne sont pas forcément ce fardeau que parfois on veut nous faire croire. Le tout, c'est de savoir se connaître, se comprendre et faire la part des choses. J'espère en tout cas que vous en aurez appris un peu plus sur la notion d'hypersensibilité et d'hyperesthésie. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Atypiques du cerveau.